Et vous saluer dans le nom du Seigneur, vous dire que nous sommes heureux d'être là au milieu de vous ce matin. Et je suis conscient que plusieurs ont peut-être une semaine un petit peu difficile, chargée. Les problèmes, les soucis, le foyer, la famille, les examens, tout cela. Et puis on vient dimanche après dimanche dans l'assemblée. Parce qu'un jour, eh bien, il s'est passé quelque chose, il y a eu un détonateur. Qui s'est mis en route. Notre cœur a été touché, on a pris conscience de l'Évangile, on a pris conscience que Jésus est vivant, on a pris conscience de la croix, on a pris conscience qu'il faut se préparer à le rencontrer, on s'est engagé dans les eaux du baptême, et puis à partir de là, je regarde, je pense qu'il est là le baptistère, et à partir de là, eh bien, on vient le dimanche, les réunions, mais... La vie chrétienne, c'est pas juste un point de départ. La vie chrétienne, c'est une marche. La vie chrétienne, elle est chaque jour. Elle n'est pas simplement quand on est là dans les murs de ce que l'on appelle l'église, alors que l'église, c'est nous, c'est pas les murs, en fait. Mais elle est là. Et Dieu veut accorder toujours sa présence. Les moments où nous nous rencontrons dans une assemblée, petite, moyenne, grande, c'est toujours des moments pour Dieu particuliers. Parce qu'il vient nous rencontrer, il vient nous parler, il vient nous fortifier. Malheureusement, d'après les statistiques, un chrétien est performant, bouillant, zélé, amoureux du Seigneur pendant les 18 premiers mois de sa vie chrétienne. Et après, voilà. Alors que normalement, quand vous plantez un arbre, on reconnaît un arbre à ses fruits. La première année... Il y a quelques fruits. Parfois, une année sur deux, il n'en donne pas. Mais avec les années, il devient grand, vigoureux et chargé de fruits. Et en fait, eh bien, il y a une vie abondante. Mais cette vie abondante, elle ne vient pas de nous, mais elle vient en nous. Et elle nous est accordée comme une grâce, mais comme une promesse de la part du Dieu de la vie. Et ce matin, j'aimerais vous encourager sur un sujet... Tout simple, c'est le sujet de la foi. Le sujet de la foi. On va faire ensemble trois lectures. La première dans l'évangile de Jean. Évangile de Jean. Et peut-être que, au lieu de faire les lectures ensemble, et puis on va prendre chaque texte, on va partager un petit peu. Et ensuite, eh bien, on aura un moment de prière. Que le Seigneur soit béni. Évangile de Jean, chapitre 11. Jean, chapitre 11, et le verset 25. Vous connaissez ce passage, peut-être, pour plusieurs. C'est un passage, c'est un chapitre 11, c'est un chapitre particulier. Parce que c'est le moment où, eh bien, un ami du Seigneur, Lazare, est mort. Lazare est mort. Et ça peut être étonnant, cela. On peut se dire, moi, si j'ai Jésus comme ami, vous savez, dans le monde des affaires, quand on a du piston... On aime bien connaître les gens importants en disant, si je connais celui-ci, celui-là, je risque rien. Ça m'ouvrira les portes des banques, des administrations, la police. Tout ira bien. Je viens d'une famille de policiers, donc il n'y a pas de... Et peut-être que le fait de se dire, ah, je connais Jésus, je ne serai jamais malade, tout va aller bien. Eh bien, l'ami de Jésus, il est mort. C'est étonnant quand même, on s'est dit. Parce que le but du Seigneur, c'est pas juste d'avoir des châteaux en Espagne et ici-bas, mais le but, notre résidence principale, elle est dans le ciel. Et au risque de vous choquer et de vous effrayer, la famille avec laquelle vous passerez plus de temps, c'est le frère et la sœur qui est à côté de vous. Ah non, comme je sais qu'ici vous vous aimez tous, dans toutes les églises c'est comme ça. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que la famille avec laquelle on passera le plus de temps, elle est ici. Notre résidence principale, elle est là-haut. Le but de notre vie, voilà. Alors, on va lire ce texte ensemble. Jean chapitre 11, verset 25. Jésus lui répondit ou lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Amen. » Notre Dieu, ce matin, voilà, nous ouvrons ta parole, je vais apporter ce que tu as mis sur mon cœur. Et ma prière, c'est que tu parles aux bien-aimés, aux jeunes, aux enfants qui sont là, aux papis, aux mamies, aux couples, aux célibataires, à ceux qui sont dans les difficultés, ceux pour qui pour l'instant tout va bien. Je prie, Seigneur, pour que tu parles au-delà de mes limites, les limites de la compréhension, les limites humaines. Je prie, Seigneur, pour que le Saint-Esprit puisse travailler, agir, bénir, fortifier, consoler, donner des directions, redonner du courage pour la marche. J'invoque le Seigneur Jésus-Christ. Je crois dans l'action du Saint-Esprit qui confirme la parole de Dieu. Je crois dans l'action du Seigneur qui amène la foi dans un cœur. Je crois dans l'action du Tout-Puissant. Et ce matin, je la demande, nous la demandons dans le nom de Jésus. Et nous nous mettons à l'écoute. Parle, Seigneur, et que ta gloire remplisse nos maisons, nos quartiers, là où nous travaillons, là où nous étudions, là où nous vivons, dans le nom de Jésus, que les âmes voient en nous la lumière de Christ, que toute l'honneur et la gloire te reviennent, Père, dans le nom de Jésus, amen, amen, que le Seigneur soit béni. Ici, Jésus va venir à la rencontre d'une famille qui est dans l'épreuve. Parler de la foi, ça sert à quoi? Ben, ça sert à refixer les objectifs, ça sert à réorienter le regard, ça sert à redonner une direction aux émotions, aux états d'âme, ça sert à lever les yeux, ça sert à montrer la direction de la solution. Et Jésus est venu à la rencontre d'une famille au milieu d'un problème grave, d'un problème terrible, c'est le deuil, c'est la souffrance, c'est la perte d'un homme. On ne sait pas si les sœurs de Lazare étaient mariées, si elles ne l'étaient pas. Alors peut-être que... Mais si elles ne l'étaient pas, c'est le frère qui était l'homme de la maison. Et dans ce contexte, une veuve, une femme seule, un enfant où il n'y a pas un père, on sait toutes les complications que ça amène. Dans l'Ancien Testament, il y avait cette veuve avec ses deux fils. L'huissier vient lui dire « Donne-moi l'argent, mais je n'ai rien, alors je viendrai prendre tes enfants, je les vendrai pour que tu rembourses. » Aujourd'hui, on dirait, ce serait... Mais à l'époque, et là, l'homme vient de mourir. Et Jésus vient là, dans l'épreuve, dans les moments difficiles, et les bons aussi, pas que les mauvais. Mais il vient quand on a le cœur touché, blessé, accablé. Il vient, bien-aimé, il vient, et il est là. Et il s'approche de cette femme. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il ne va pas simplement lui dire qu'il est là, mais il va lui parler. Et le Seigneur veut parler à cette femme. Parce que si Jésus reste là, eh bien, cette femme peut rester isolée, emprisonnée dans ses pensées, dans ses émotions, dans sa peine, dans sa tristesse. Le Seigneur veut l'aider à en sortir. Alors comment elle peut en sortir? Eh bien, il vient lui parler. Il vient lui adresser une parole. Et ensuite, il va lui dire, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. » Jésus lui annonce quelque chose qui est inimaginable. Et permettez-moi de vous dire que si vous croyez que des choses logiques, que des choses que vous maîtrisez dans vos pensées, que des choses qui tiennent la route dans la dimension ou les limites que vous avez, c'est pas ça la foi. La foi, c'est de croire quelque chose qui nous dépasse. La foi, c'est d'accepter, d'espérer l'inespérable. La foi, c'est d'accepter de se confier dans le vide. Mais il n'y a pas de vide en Dieu, parce qu'il tient tout dans sa main. La foi, c'est accepter d'être là en dehors de nos limites, mais de se mettre à l'abri de celui qui est tout puissant. Mais on ne le voit pas. On ne le voit pas. Et là, le Seigneur va dire à cette femme, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Jésus lui parle et Jésus te parle au travers de sa parole. Est-ce que tu la lis cette Bible? Ce livre béni pour lequel des hommes et des femmes ont été mis à mort, des institutions religieuses et politiques se sont liées pour brûler la Bible. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. La Bible est dangereuse. La Bible est la lumière, la Bible est le pain de ton âme. La Bible t'aide à connaître ce que tu ne peux pas imaginer. Parfois, quand je lis la Bible, non, pas parfois quand je lis la Bible, je la lis pas parfois, mais parfois, dans ma lecture de la Bible, des fois je lis des choses et je me dis, mais Seigneur, j'aurais jamais imaginé que ça pouvait se faire. On a besoin de se replonger dans la parole. On a besoin de plonger nos racines parce que quotidiennement, nos raisons, nos pensées, nos raisonnements... Ah, moi je connais la Bible. Ah oui, vous connaissez quoi? Mais je connais l'histoire du petit Jésus. Ah, et vous connaissez la Bible. Mais dans la Bible, il y a des milliers de détails qui deviennent un message quand on traverse un événement... Et on lit, on dit, mais c'est ce que je suis en train de vivre. Dans la Bible, il y a des milliers de détails dans lesquels Dieu apparaît dans sa vie, dans sa connaissance. Et ce qui te donnera la vie, c'est pas de connaître Jésus, je sais que Jésus est mort sur la croix, mais c'est de t'imprégner des détails, des mots, des promesses, des paroles, de te plonger à comprendre les circonstances dans lesquelles Dieu a agi, Dieu a parlé, Dieu a fait, de connaître les détails. C'est de t'imprégner de ce message qui est à multiples facettes. La Bible, c'est extraordinaire. Quand j'ai pas le moral, eh bien, je me plonge davantage dans la parole de Dieu. Elle me fait voir plus loin que ce que mes yeux regardent. Elle m'amène à réaliser que celui qui un jour m'a amené à croire en lui, il est grand. Elle m'amène à trouver la paix. Elle m'amène à voir le chemin. C'est comme le GPS. Quand vous roulez, que tout d'un coup, votre GPS, écran noir, clac. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi ça m'arrive. J'ai un GPS, il est caractériel. Hein? Et là, hop, il y a un carrefour, on est en ville, on veut tourner, c'est un sens interdit. On dit, mais c'est où le chemin des autres? On a besoin d'avoir l'œil sur la carte. Et on a besoin d'avoir l'œil sur la carte pour pas se perdre dans nos pensées, nos caractères. Parfois, la vieille nature, elle savait faire de l'apnée dans le baptistère. Parfois, elle se réveille, elle reprend place, les vieilles habitudes, les péchés du passé. Comment, Seigneur, vivre dans la joie? Mais regarde la carte que Dieu t'a donnée. Plonge tes regards dans cette parole incroyable. Jésus parle à cette femme. Jésus parle à cette femme. Et il lui pose une question. Est-ce que tu crois cela? Ce matin, le Seigneur pourrait te poser la question et je vais vous la poser après. Mon ami, tu es là. Tu as été baptisé, tu as fait une expérience merveilleuse. Tu as vu l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu pour toi. Mais aujourd'hui, maintenant là, qu'est-ce que tu crois? Eh bien, ce qui te donne du courage, de la force, c'est de pouvoir dire au Seigneur, je crois que tu es mon Dieu. Je crois que tu m'as sauvé. Je crois qu'il n'y a plus de condamnation pour ma vie. Je crois que tu es avec moi. Je crois que tu changes le mal en bien. Je crois que tu travailles le cœur de mes enfants, le cœur de mon conjoint. Je crois que tu me pardonnes. Seigneur, tu es plus grand que ma nature faible. Je crois que tu diriges ma vie professionnelle. Et là, si ça va mal, il y a encore du bon pour moi. Je crois que tu écris mon avenir. Je crois que tu bâtis ma famille. Jésus va poser cette question à cette femme. Est-ce que tu crois cela? Et pourquoi elle lui pose la question? Parce que là encore, le Seigneur s'approche d'elle, elle peut être là, complètement emprisonnée. elle peut entendre Jésus lui dire « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais, quand bien même il serait mort. » Elle peut dire comme ça. Et le Seigneur dit « Tu le crois ?» Et là, elle est obligée de se le réveiller, quoi. Elle est obligée d'être attentive. Elle est obligée de regarder Jésus. Elle est obligée de sortir d'elle-même. Elle est obligée de se lever de son deuil, de sa peine. Elle est obligée. Elle est obligée. Alors elle va dire à Jésus, « Oui, je crois. » Et quelque chose se met en marche. Et voyez-vous, souvent l'être humain, quand il est dans la peine, il reste enfermé, emprisonné. Le Seigneur vient, on entend des messages, on les entend, mais on n'y répond pas. C'est comme si on n'entendait rien. Ça s'enracine plus. La foi s'éteint. Crois-tu cela ? Oh ! J'ai froid, j'ai le trac. C'est Marthe ou Marie ? Marthe, merci. Marthe, tu le crois ? Oh, Marthe, tu le crois ? Marthe, je suis la résurrection et la vie. Tu le crois ? Oui, je le crois. Et ce matin, vous pouvez venir là, écouter, repartir. Alors vous allez dire, mais pasteur, si vous saviez la tuile qui m'est tombée dessus, ben justement, c'est le moment de croire. Un jour, il y a un frère, il m'a dit, moi je résiste à tout sauf à la tentation. Ah, je lui dis, ben, on est d'accord, mais au moins il a... Et des fois, on est là, dit, moi je crois au Seigneur dans tout, sauf dans les problèmes. Mais non, c'est justement maintenant qu'il faut croire. C'est justement maintenant qu'il faut espérer. C'est maintenant qu'il faut établir le lien. D'ailleurs, entre nous, c'est pas au moment où tout va mal qu'il faut croire. Parce que si vous ne croyez que quand ça va mal... Le jour où la tempête vient, vous n'avez plus la force de croire. La foi, quelque chose qui doit s'entretenir en nous. Vous savez, un toit, par exemple, d'une maison, on n'attend pas qu'il y ait des grêlons gros comme des balles de tennis pour se dire « Ah, il monte toit ». On entretient la maison. Quand l'hiver froid arrive, on a entretenu la maison. On a regardé les joints des fenêtres. On a regardé l'état des tuiles. On a regardé si la porte... On entretient une maison. Quand on prend la voiture, c'est pas une fois qu'on va faire un grand voyage, mais une voiture, on l'entretient, on change les filtres, on fait les vidanges, on regarde les plaquettes de frein, et je vous le dis, votre pasteur, il a une voiture, faut la foi pour rouler avec, parce que elle fait un bruit, les plaquettes et les disques. Je dis, s'il y a un mécano, s'il vous plaît, si vous vous tenez à votre pasteur, changez-lui les disques et les plaquettes. Mais on entretient la voiture. C'est pas tout d'un coup, aïe, qu'est-ce qui arrive? Et la foi, c'est pareil, Seigneur, mais t'es où? Mais on doit entretenir cela. Et peut-être davantage quand tout va bien, pour avoir la force quand ça va mal, pour avoir l'énergie quand ça va mal, pour avoir le lien quand ça va mal. Et la foi que j'ai quand tout va bien, le lien qui m'unit au Seigneur quand tout va bien, il m'accompagne quand ça va pas. Il m'aide à sortir la tête hors de l'eau quand ça va pas. Parce que le Seigneur n'est pas l'accessoire, l'option de ma vie. Il est ma vie. Il est mon Dieu. Il est mon assurance. Il est mon salut. Seigneur, quand tu m'as touché, que je me suis engagé dans les eaux du baptême, c'était le point de départ pour toi. Les expériences et les bénédictions me motivent à en vivre d'autres. Et il y a eu une période dans ma vie où je disais, Seigneur, aïe, évite les problèmes, fais que tout aille bien. Et je ne comprenais pas, les problèmes, ça ne s'arrêtait pas. Parce qu'à un moment donné, j'ai compris que Dieu utilise les problèmes pour me montrer qui il est, ce qu'il fait, comment il console, comment il guérit, comment il donne de l'avenir. Et aujourd'hui, si je suis là devant vous, c'est parce que je peux dire, nous avons un grand Dieu. Nous avons un Seigneur merveilleux. Le terreau dans lequel nous plantons nos racines est un terreau fertile. Le Seigneur est le Dieu de la vie. Il sèche les larmes. Il console les cœurs. Seigneur, mais évite-moi les problèmes. Mais si tu évites les problèmes, tu ne sauras pas qui est celui qui t'a sauvé. Tu ne seras pas un témoignage vivant dans ce monde parce que les hommes pleurent. Mais toi, dans les mêmes tempêtes, alors que l'apôtre Paul était au sein de la tempête et que tout le monde était en train de se dire depuis 14 jours, on va mourir, on va couler, c'est fini pour nous. Cet homme pouvait dire au sein de la tempête, le Dieu à qui j'appartiens, il m'a dit que personne d'entre vous mourra. Et ça a touché ces hommes. Et Dieu a donné un avenir. C'est vrai, bien-aimé, que les épreuves, c'est pas facile. C'est vrai que parfois on aimerait souffler. C'est vrai que parfois on aimerait se détendre. Mais est-ce que ce n'est pas les épreuves qui souvent nous ont remué à nous approcher de lui? Moi, je sais pas comment vous êtes. Moi, je suis un pasteur très spirituel. Mais quand tout va bien, mais les expériences que j'ai pu faire dans ma vie, que vous avez fait, c'est quand? C'est dans les problèmes. C'est dans les épreuves. Maintenant, les épreuves peuvent nous faire basculer de deux côtés. Soit on décroche. L'apôtre Paul dit « J'ai gardé la foi » parce qu'il avait envie parfois de l'abandonner. Soit on décroche, soit on abandonne, soit on tourne le dos, soit on rejette, ou soit on persévère. On continue d'espérer, on se confie, on parle au Seigneur, on lui dit ce que nous avons sur le cœur. Et sa grâce ne manquera jamais. Bien-aimé, que veux-tu faire ce matin? Tu es dans un moment de sécheresse, dans l'épreuve. Et tu te dis, mais pourquoi? Ça sert à quoi de croire? Mais tu n'as pas compris. Si Dieu permet le désert, c'est pour te montrer que dans le désert, tu ne mourras pas de faim, tu ne mourras pas de soif. Vous vous rendez compte de ce chemin, de ce voyage dans le désert, ce peuple? Combien il y en a qui ont murmuré, dit, qu'est-ce qui nous amène là? Il n'y avait pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu viennes nous faire mourir ici. C'était dur, j'aurais pas aimé être Moïse, hein. Moïse est un pasteur qui a eu une église terrible, terrible. N'empêche qu'il est dit que c'était devenu l'homme le plus patient de la terre. Le fougueux, là. Parce que Moïse, c'est un fougueux. Hein. Moïse, il a tué un homme. Hein. Il faut le faire quand même. Hein? Non, il ne faut pas le faire, oui. Non, il ne faut pas le faire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça montre le genre de caractère qu'il avait. Hein. Quand ça le contrariait au plus haut point, moi, ça m'encourage, hein. Parce que bon, il y a un Moïse en nous. Hein. Enfin, il y en a un en moi, quoi. Mais ça m'encourage de me dire, mais Seigneur, tu peux changer mon caractère, tu peux changer ma vie. Alors je dis, fais-le, Seigneur. Et il me met dans le désert. Je dis, mais c'est pas comme ça. Donne-moi le caractère tout prêt, clé en main. Non. La guérison, on la reçoit parce que c'est une œuvre qui a été accomplie à la croix. Mais le fruit de l'esprit doit se développer. Si vous voulez apprendre la patience, eh bien, le Seigneur va vous mettre devant des gens contrariants, difficiles, compliqués. Ah, dis alors, je meurs. Oui, tu meurs et meurs bien. C'est la vieille nature qui meurt. Confie-toi en lui. Je ne vais pas vous raconter, mais c'est quand tout va mal et quand tout va bien aussi. C'est devant les problèmes et les difficultés que la foi est une victoire. C'est là que Jésus vient. Mais il peut être là, et toi, dans ta prison. Il peut te parler, je te parle ce matin. Et toi, encore dans ta prison. Mais il te pose la question, qu'est-ce que tu crois? T'es pas là par hasard quand même. T'es pas venu parce qu'on est venu te chercher, te menacer avec un pistolet sur la tête. Tu as pris du temps, tu as pris ta voiture, tu t'es organisé, tu t'es coiffé, tu t'es habillé, tu t'es fait beau, élégant. Tu as chanté. Pourquoi tu es venu? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que t'attends de Dieu? Tu es là dans sa maison, qu'est-ce que tu espères en lui? Comprenez-vous? Et Jésus pose la question, crois-tu cela? Crois-tu cela? Qu'est-ce que tu crois, Marthe? Et Marthe, à un moment donné, elle se réveille. Elle dit, oui, je crois. Oui, je crois. Et ce matin, j'aimerais vous encourager à faire une rétrospective, à réfléchir. Qu'est-ce que tu crois dans le Seigneur? Qu'est-ce que tu crois? Le crois-tu maintenant? Je crois, Seigneur, que tu es bon. Je crois que tu es le Dieu des solutions. Mais toi qui traverses la difficulté, le crois-tu maintenant? Le crois-tu maintenant? Oui, je le crois. Peux-tu dire maintenant à celui qui est venu te chercher, Seigneur, je crois que tu es ma vie, que rien ne me ravira de ta main. Peux-tu le dire maintenant? J'avais 3 pages de notes et je ne vous ai rien dit des 3 pages. Mais j'aimerais qu'on s'arrête et qu'on prie. Et que tu puisses dire maintenant au Seigneur ce que tu crois. Que tu prennes courage dans la foi. Que tu réalises qu'il faut remettre la foi en Christ au centre de ta vie, au centre de ta famille, au centre de tes projets. Que tu te rappelles que celui qui t'a touché n'a pas vieilli, n'a pas changé. Il est le même. Que tu te rappelles ce que tu as confessé dans les eaux du baptême. Que tu te rappelles les promesses que tu as faites et que Dieu en a fait pour toi. Que son nom soit béni. Alléluia. On va lire quand même un texte avant de terminer. Dans Matthieu chapitre 8. Et ça va conclure, mais en même temps appuyer ce que nous avons pu partager ensemble. Matthieu chapitre 8, verset 13. C'est l'histoire d'un soldat, un centenier qui va vers Jésus apportant un problème. Son serviteur était malade et il demande à Jésus de le guérir, etc. Et au verset 13, regardez ce que Jésus lui dit. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Waouh! C'est incroyable, mais c'est grave aussi. Ah Seigneur, mais je n'ai pas vraiment la foi. Ben, si tout dépend de ma foi, c'est comme si vous avez une grosse voiture, une belle voiture et vous n'avez pas les clés. Et, ah ça c'est ma voiture, ah oui elle va vite, elle va vite. On remarque aujourd'hui, elle est confortable, super confortable. Siège massant, siège chauffant, siège relaxant, volant massant pour les mains. Alors, il y a la clim devant, à droite, à gauche, derrière, dans le coffre même. Boîte à gants, réfrigérée. Ah oui, et combien de chevaux? 300 chevaux. Là, vraiment, je vous dis des bêtises. Hein. Ah oui, et à l'Argus. Ah, l'Argus, il n'y a pas d'Argus pour ces voitures-là. Jamais pas de la valeur. C'est plus que la Ross. Ah oui, on pourrait faire un tour et j'ai pas les clés. Et peut-être que parfois, notre louange, c'est un peu la description de la belle voiture. Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux, tu es formidable, tu as fait des belles choses dans ma vie. Ah, waouh. Et on pourrait faire un tour là? J'ai pas les clés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, dans la situation où je suis, voilà, je suis déjà venu, c'est déjà bien. Mais s'il vous plaît, non. Mais non, mon ami. Prends la clé de la foi. Parce que le Seigneur te dit, te sera fait selon ta foi. Selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Voyez-vous, l'œuvre de Dieu dans la vie d'un homme, d'un croyant, ne s'arrête pas quand il tombe. Mais elle s'arrête quand il ne se relève pas. C'est pas la même chose. Parce qu'on tombe. Le juste tombe 7 fois, et quand vous réfléchissez au chiffre 7, vous vous dites c'est la perfection de la chute. Mais il y a la perfection du relèvement. L'œuvre de Dieu, elle ne s'arrête pas quand on tombe. L'œuvre de Dieu ne s'arrête pas quand on passe des moments où on fait de la dépression, où on n'arrive plus, où on est fatigué. L'œuvre de Dieu ne s'arrête pas. Mais elle s'arrête quand on ne se relève pas. C'est-à-dire qu'on ne prend pas la clé de la foi. Et qu'à un moment donné, on écrit nos psaumes. Qu'on écrit nos psaumes en disant, « Seigneur, je crie à toi, mais je n'ai que toi. Viens me secourir. Tu n'as pas pu faire tant dans ma vie pour me laisser mourir comme ça. Seigneur, j'espère en toi. » Et là, le Seigneur, il nous regarde. Et on l'honore, parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais par la foi, le cœur du Père est touché. « Mon ami, qu'est-ce que tu crois maintenant ? Peux-tu dire à Dieu, peux-tu dire à Christ, par le Saint-Esprit, « Je crois en toi. Je crois que tu vas donner de la santé, de la vie. Je crois en toi. J'ai tel problème dans mon foyer, j'ai tel problème dans mon travail. Mais je pose cela. Je crois en toi. Je reste sur cette position. Je confie cela. Tu vas agir. » Je ne sais pas comment, je ne sais pas ce que tu vas faire, mais tu vas agir, Seigneur. Tu es le Dieu des délivrances. Tu n'as pas empêché Daniel de tomber dans la fosse aux lions, mais tu as fermé la gueule des lions. Tu n'as pas empêché ses amis d'aller dans la fournaise, mais tu as empêché le feu de les brûler. Tu n'as pas empêché Paul d'aller dans la tempête, mais tu as empêché que la tempête coule le bateau. Tu n'as pas empêché que Jésus aille à la croix, mais tu l'as ressuscité. Alors moi, je ne sais pas ce que tu peux faire. Et je ne veux pas essayer de dire, Seigneur, fais ceci, fais cela, mais je me confie en toi. Le crois-tu ? Le crois-tu ? Je vous dirai, et je m'arrête, là c'est sûr. Quelqu'un qui n'a pas la foi, c'est un mort-vivant. Et je ne fais pas allusion à des films louches. C'est un mort-vivant. Les gens qui m'ont fait le plus de bien dans ma vie, c'est ceux qui avaient la foi. La foi même très simple. Et un peu de foi et un peu de joie. Je vous assure. Je ne sais pas si vous vous souvenez Monsieur Lamarck. Un petit pépé qui conduisait les champs. C'était pas toujours au top et c'était pas toujours bien accordé. Mais il avait une telle joie, une telle foi. Monsieur Boudéen, vous avez entendu parler ? Un monsieur, un évangéliste. Un jour, j'ai été dans une église. Tout le monde était au garde à vous. Le pasteur, c'était pas facile pour lui. Et à un moment donné, il dit, il y a le beau-père qui va prêcher. J'ai dit, oh là là, moi je venais du sud et c'était pas dans le sud. J'ai dit, oh, si le gendre il est comme ça, quand le beau-père va se lever, qu'est-ce que ça va être ? Parce que tout le monde était là, les gens. Le beau-père est arrivé, c'était un moment de Noël. « Bonjour les enfants, bonjour les mamies, bonjour les papis, ça va, joyeux Noël, que Dieu vous bénisse. » J'ai regardé, transformé l'église, les gens étaient détendus. Parce que la foi amène de la joie. Le secours, il est là. Jésus est avec vous, le crois-tu ? J'aimerais qu'on prenne un temps de prière. Si vous voulez vous lever, dites-le au Seigneur, prenez ce temps. C'est lui votre sauveur. Notre Père,